matin, week-end. Pierre de Villeneau.
Les experts sont là, ça vous concerne même le dimanche. Bonjour Christine Béraud,
bonjour.
Charles Decan et Roland Perret.
Et bonjour à tous.
Votre sélection programme pour la semaine à venir, Charles, c'est une émission qui fait sa révolution.
Et oui, mardi prochain, M6 lancera la quatrième saison de son concours Le Meilleur Pâtissier, les professionnels. Alors avec un titre pareil, on se dit spontanément que ça doit être Le Meilleur Pâtissier, mais en mieux. Un niveau plus élevé, des gâteaux plus alléchants, un suspense décuplé. Et en fait, jusqu'à l'an dernier, c'était tout le contraire. Pour ses trois premières saisons, l'émission avait tenté de se différencier de sa grande sœur. Elle s'était trop prise au sérieux. Résultat, elle n'a jamais signé des audiences aussi impressionnantes que Le Meilleur Pâtissier.
D'où le besoin d'une révolution.
Voilà, forcément, avec une ligne directrice qui est assez logique, surtout quand on y réfléchit en termes de recettes. Pour rencontrer le même succès que Le Meilleur Pâtissier, pourquoi ne pas reprendre les mêmes ingrédients? Du coup, adios les décors un peu claustrophobiques en intérieur, adios les brigades un peu trop sérieuses, et place à tout ce qui a fait le charme de l'émission originale. Une tente géante et d'ailleurs même plus imposante pour accueillir les candidats dans le domaine du même château. Une mécanique simplifiée plus proche du meilleur pâtissier et surtout un casting plus attachant. Alors je vous le disais, on oublie les brigades de 3 ou 4 personnes. Cette fois, ce sont des binômes de pâtissiers qui s'affrontent, mais ce sont des pâtissiers de quartier avec des personnalités assez proches des amateurs de la version originale. Même les épreuves ont été repensées. Et si le jury inclut toujours Cyril Lignac et Pierre Hermé, il accueille un petit nouveau bien connu des téléspectateurs d'M6, Jean-François Piège.
Bon alors, révolution réussie ou pas?
Alors j'ai pu voir que le premier épisode, mais on retrouve quasiment tout ce qui fait la force du meilleur pâtissier, à une exception près, les énormes plantades qui me font moi parfois beaucoup rire. Et après, du coup, j'ai honte d'être aussi malveillant. Vu qu'on est avec des pros, bon, il n'y a plus de désastre, du moins pas dans le premier épisode, mais il y a de très très belles réalisations et le concours est plus lisible et plus concernant. Pour découvrir cette nouvelle mouture du meilleur pâtissier, les professionnels, rendez-vous mardi à 21h05 sur M6.
Maître Pérez, question. Oui. Un employeur peut-il invoquer le règlement intérieur de l'entreprise pour s'opposer au port du voile de l'une des salariés? En tout cas, c'est la Cour de cassation, encore elle, qui vient d'y répondre.
Alors oui, dans cette affaire, une jeune salariée vendeuse dans un magasin de vêtements reprend son poste après un congé parental d'éducation. Le jour de la reprise, elle porte un foulard religieux, ce qui fait réagir son employeur qui lui demande sur le champ de le retirer, invoquant l'image de leur entreprise et son retentissement possible sur la clientèle. La salariée n'obtempère pas et après avoir été mise à pied, elle est licenciée. Vous devinez la suite. Une procédure de licenciement a été initiée par la salariée devant, elle a contesté donc son licenciement devant le Conseil des prud'hommes. Elle s'estime victime de discrimination en raison de ses convictions religieuses, demandant ainsi à la justice de déclarer nul son licenciement. Et pour lui donner raison, la décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui a été rendue en 2017, c'est sur cette décision que la Cour de cassation va s'appuyer. Voilà. Elle a posé comme condition de refus possible du port du voile dans l'entreprise la présence impérative d'une clause de neutralité insérée dans le règlement intérieur de l'entreprise, où une note de service peut également faire l'affaire, ce qui manquait précisément dans l'affaire où la décision de nullité du licenciement en question vient d'être rendue.
Mais elle doit dire quoi cette clause?
La clause de neutralité doit être écrite, elle doit interdire le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail. Et surtout, elle doit s'appliquer à tous les salariés en contact avec la clientèle, puisque c'est celle-ci qui, a priori, est concernée.
Donc, pas de clause, pas de possibilité de s'opposer au port du voile.
À une nuance près, Pierre, l'employeur qui peut démontrer que le port du foulard nuit concrètement et objectivement à l'entreprise peut être fondé à licencier, à justifier de son licenciement. Il faut juste qu'il puisse quantifier son préjudice, qu'on ait un préjudice réel, alors qu'invoquer juste l'image de l'entreprise en supputant une éventuelle contrariété de la clientèle et les attentes présumées de cette même clientèle, cela ne constitue pas un trouble commercial.
On ne peut pas tout inventer, si je comprends bien.
Absolument.
Christine.
Oui, alors sans transition aucune, ce matin, je voulais vous faire mon coming out. Alors voilà, je fais partie des gens qui se sont formés à la bourse pendant le confinement. Oui, bon, bah, pardon, en même temps, j'avais déjà des bases parce que j'avais regardé le film Le Loup de Wall Street. Oui, enfin, pas que, enfin, parce que je suis également Jérôme Carville sur Instagram. Mais là, je suis allée un petit peu plus loin et je suis devenue un peu obsédée et je réalise que la bourse, c'est une métaphore de la vie. Regardez, on cherche tous l'amour. Et qu'est-ce que l'amour sinon? Une valeur refuge. Et ce, pour se créer des intérêts composés, c'est-à-dire des enfants. Alors, c'est vrai que moi, en amour, j'ai beaucoup boursicoté, mais je suis la preuve vivante qu'on peut survivre à plusieurs cracks. D'ailleurs, on ne dit plus un crack, mais on dit l'éclatement d'une bulle. Une bulle, c'est quand le marché s'est enthousiasmé dans un domaine jusqu'à surcoter des titres qui finissent tous par se casser la gueule. Et c'est pas un hasard si au début d'une histoire d'amour on nie qu'on est dans une bulle. Le concept est le même. C'est quoi tomber amoureux si ce n'est surcoter quelqu'un? Oui, je suis aigrie. Et de la même façon, un ex, c'est comme une action qu'on a vendue. Voilà, ça sert à rien d'aller l'espionner. On risque de se faire du mal. Là où ça diffère, c'est que même quand on est séparé, l'ex peut encore vous verser des dividendes. Ah, sauf qu'on appelle ça une pension alimentaire. La bourse aide à y voir plus clair dans plein de domaines. Ça vous est jamais arrivé de voir, vous séparer d'un ami parce que le fréquenter ne vous rendait plus heureux? Voilà, vous savez, c'est un ami, c'est comme une action. Il y en a que vous allez garder toute votre vie, et il y en a d'autres, vous étiez content de miser dessus un jour, et puis on ne sait pas pourquoi, ça se casse la gueule. Et il faut vendre. Il y a aussi les amis qu'on se fait en vacances. Donc là, on est sur de la start-up. On mise sur 10, et si on a de la chance, voilà, il y en a un qui nous rentabilisera le temps qu'on a perdu avec les 9 autres. Et puis, il y a les gens très charismatiques qu'on croise en soirée, ils parlent fort, ils sont beaux, on admire leur confiance en eux et on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. Alors ces gens-là, je les appelle les crypto-monnaies. D'ailleurs, Pierre, je tenais à vous dire que vous êtes mon LVMH.
Ah,
voilà.
Bah, oh,
je ne vous vendrai jamais.
Quel
en même temps, ça ne risque pas, je n'ai déjà pas les moyens de vous acheter. Donc, bref, ça me passera
c'est
peut-être...
C'est plus de 600 euros l'action oui, LVMH.
Oui, oui, 648, ne me demandez pas comment je sais. Bref, ça me passera peut-être. Si ça se trouve, la bourse pour moi, c'est juste une crise existentielle due au fait que l'année prochaine, je vais fêter mes CAC 40 ans. Mais il y a une chose que les marchés m'ont enseigné, c'est que ça finit toujours par repartir. D'ailleurs, la bourse existe, il y a des hauts et des bas. Et bah, c'est pareil avec le moral. Et en cette dernière ligne droite de restrictions sanitaires, je trouverais ça bien de rappeler que ça repartira forcément un jour.
Bravo,
courage.
Bravo Christine. Merci.
Et Charles, et moi, on est quoi, Bitcoin?
Vous êtes mes Apple et Coca-Cola.
C'est pas mal.
Pas mal. Merci les amis.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.